Radio Orient présente Pluriel.
Vous êtes bien sur Radio Orient, avec vous François-Xavier de Calonne. L'invité de Pluriel est un spécialiste des questions internationales dans un monde en pleine évolution. Frédéric Petit, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes député MoDem des Français établis en Allemagne, en Europe centrale et dans les Balkans. Tout simplement, comment est-ce que vous percevez l'évolution géopolitique internationale depuis le début de cette année 2026? Elle a commencé par la capture par les États-Unis du dictateur vénézuélien Nicolas Maduro, puis les velléités de Donald Trump sur le Groenland. Assiste-t-on à un véritable bouleversement géopolitique?
Oui, pas uniquement depuis le 1er janvier. Et puis depuis le 1er janvier, il y a eu une stratégie de bombardement russe qui se précise, qui tente à couper l'Ukraine en deux sur le plan énergétique, à mettre à l'arrêt les centrales nucléaires dans un hiver qui est exceptionnellement froid. Donc une stratégie de au moins crime de guerre qui est beaucoup plus délibérée et désinhibée. On n'a pas beaucoup entendu la Chine depuis le 1er janvier, mais ce qui se passe en Iran est aussi quelque chose qui se passe depuis le 1er janvier.
Ce soulèvement populaire,
qui change.
Ces manifestations qui ont débuté le 28 décembre dernier. Oui.
Voilà, et qui va changer, à mon avis, l'équilibre général du Moyen-Orient. À mon avis, ce qui se passe entre l'Iran et Gaza est quelque chose qui est très imbriqué, donc qui va forcément nécessiter. Je suis content de notre diplomatie, qui est aussi une diplomatie qui répond à cette imbrication par une vision régionale. Sinon, une diplomatie régionale, une vision régionale, c'est-à-dire ce qui se passe en Cisjordanie, ce qui se passe à Damas, ce qui se passe maintenant dans le nord de la Syrie les renversements un peu d'alliances et militaires, hein, entre les Kurdes et les Syriens. Tout cela, oui, c'est un grand bouleversement.
Mais ce qui s'est passé avec la capture de Nicolas Maduro par les États-Unis, ça c'est une première. Est-ce un point de bascule?
Oui, mais c'est un point de bascule dans la mesure. Ce qui est un point de bascule, c'est le côté délibéré et désinhibé. C'est ça qui est un point de bascule. C'est-à-dire, c'est pas un point de bascule qu'un chef d'État dictatorial et violent et haï ait besoin de se protéger contre un enlèvement, si je connais beaucoup de pays où ça existe, où les chefs d'État sont des gens extrêmement protégés parce qu'ils savent très bien qu'ils sont menacés.
D'ailleurs, on a vu la réaction d'Emmanuel Macron qui a applaudit cette capture avant d'en dénoncer la méthode.
Non, c'est pas ça. Il a dit.
Ah si, il a fait un tweet saluant la capture de Nicolas Maduro.
Il n'a pas applaudi.
Il n'a pas,
je suis désolé, il n'a pas applaudi la capture. Il a applaudi la fin de la dictature. C'est un peu différent, quand même. Voilà, c'est un peu.
Donald Trump
et dans le même.
Ce qui prouve que
oui, mais Donald Trump est très habile pour extraire cette phrase-là. Mais si vous relisez toute la déclaration du président de la République, elle est exactement en ligne avec ce qui a été dit après, qui est que c'est une action délibérément et de manière complètement désinhibée contre le droit. Simplement, on a sorti cette phrase, on a sorti la phrase. Je comprends qu'il fallait dire les deux choses, il faut envoyer les deux messages. Donc c'est une chose assez simple. Bon, ça, c'est des petites bagarres.
Oui et non, parce qu'une question peut se poser, est-ce qu'Emmanuel Macron, en se réjouissant de la fin de la dictature Maduro, ne s'est-il pas tiré une balle dans le pied avant d'en dénoncer la méthode,
connaissant
les velléités du président des États-Unis sur un territoire de l'Union européenne?
Pas du tout, pas du tout. Il n'y a pas de balle dans le pied, d'abord. Ce qui se passe, c'est qu'il faut. Enfin, vous ne pouvez pas accompagner le soulagement d'un peuple qui est débarrassé de quelqu'un qui roulait en char sur ses citoyens. Et je rappelle encore une fois, il n'y a pas eu. C'est en même temps qu'il a dit ces deux choses. Il les a dites dans la même déclaration. Il n'y a qu'une petite partie de la déclaration qui a été retenue parce que c'est celle qui a été tweetée très habilement par Trump.
Et alors maintenant, question portée,
sur le basculement, oui. La méthode n'est pas la bonne. Alors après, moi j'alerte, et je le dis depuis quelques heures après, j'ai toujours été très prudent. Il y a une manière de présenter ce qui s'est passé au Venezuela comme une ingérence caractérisée et une opération préparée par les services secrets américains dans le plus grand secret, etc., extrêmement bien préparée, etc. Et puis on rajoute, ayant profité de quelques complicités locales, parce qu'on est bien obligé de le reconnaître, même ceux qui le présentent de cette manière, il y a une autre manière de le présenter qui est, est-ce que nous n'avons pas eu un coup d'État intérieur, profitant de la folie et des enjeux dont ils savaient qu'ils étaient les enjeux de Trump, pour dire ben, on va renverser notre chef en se faisant aider par le grand frère américain. Il y a quelque chose de cet ordre-là, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui étaient à l'intérieur du sérail. Voilà, quand tous les radars s'éteignent au même moment, etc., c'est peut-être pas forcément les services secrets américains, c'est peut-être aussi des gens qui avaient dit, écoutez, nous, ça nous arrangerait qu'on nous débarrasse du chef.
Alors voilà. Le Venezuela, hein, c'était l'un des thèmes de la déclaration lundi dernier du gouvernement sur le rôle de la France dans la prévention et la résolution des crises politiques internationales, notamment donc au Venezuela, déclaration qui a été suivie d'un débat auquel vous avez assisté,
tout à fait.
Monsieur le député Frédéric Petit. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a indiqué que la France se préparait à un monde soumis à la loi du plus fort. Alors, est-ce que ce n'est déjà pas le cas depuis des décennies? Et sinon, qu'est-ce que cela implique désormais?
Oui, alors il a pas dit qu'il s'y préparait de manière fataliste. Il a dit qu'il faut se préparer de façon à y résister. Parce que ce que nous prônons, c'est autre chose. Nous ne prônons pas la loi du plus fort. Nous prônons l'équilibre que nous essayons patiemment de construire et dont la construction européenne est l'exemple, l'archétype de ce que le génie humain, excusez-moi, je vais jusque-là, que le génie humain politique est capable de construire. On dit au cours de décennies, parce qu'on considère que l'Union européenne a démarré à la Seconde Guerre mondiale, ce qui est vrai historiquement, moi je dis depuis des siècles, parce que je crois que cette idée qu'en Union européenne, aussi différent qu'on est, avec des micro-peuples, des grands peuples, des migrations dans tous les sens pendant des siècles, nous devrions nous taper sur la figure tous les matins. Et depuis des siècles, il y a des gens qui disent « Est-ce qu'on pourrait éviter de se taper sur la figure et de gérer nos conflits d'une autre manière ?» Et la forme la plus achevée, c'est l'Union européenne. Voilà. Mais il y en a eu d'autres avant, des expériences. Et je rappelle quelque chose de fondamental qu'on oublie très souvent, en plus de ces expériences précédentes, et dont une de ces expériences précédentes, qui s'appelait la République des Deux Nations, qui était exactement sur les territoires qui vont du Bélarus, de l'Ukraine, de la Pologne et de la Lituanie d'aujourd'hui. C'est là que, moi je dis souvent à mes amis de ces régions, vous portez une proto-Union européenne. Ça a duré 4 siècles quand même. Et ça s'appelait la République des Deux Nations.
Et aujourd'hui, l'Union européenne, avec ses nouveaux blocs, avec ses dirigeants qui sont qualifiés de prédateurs, a-t-elle les moyens de résister à ces
bien
nouveaux
sûr,
blocs
bien sûr, bien sûr, c'est uniquement un problème de volonté. Regardez, on a inventé, c'est la France quand elle était présidente, de l'Union européenne, il y a quelques... a fait admettre... C'était en 2022, hein, c'était pas la semaine dernière, a fait admettre cet outil de anti-coercition. C'est-à-dire que l'Union européenne a décidé que nous devions aussi nous renforcer sur le plan militaire, etc., mais que nous devions imaginer de nouveaux outils pour résister à la coercition. Des outils défensifs, donc. Pas des outils agressifs, mais des outils défensifs. Et c'est la France qui a proposé ça à ses collègues européens, à ses partenaires européens, qui l'ont accepté. Et aujourd'hui, on est en train, l'Union européenne est en train de commencer à utiliser cet outil, qui est un outil qui n'est pas agressif, ce n'est pas les droits de douane de Trump qui sort comme on dégaine un colt dans un western. C'est un outil anti-coercition, c'est-à-dire qui tombe de lui-même dès que l'autre arrête la coercition, avec une coercition qui est, comme souvent en Union européenne, extrêmement bien défini.
Et vous évoquez les outils défensifs, Frédéric Petit. Il y a l'OTAN. L'OTAN est-il fragilisé aujourd'hui lorsque l'on voit les déclarations du président américain, cette guerre économique qui est en cours, on peut le dire, c'est en tout cas ce qu'affirme la députée Renaissance Fabienne Keller au micro de Radio Orient, la députée européenne Fabienne Keller. L'OTAN est particulièrement fragilisé aujourd'hui.
Bien sûr. Alors l'OTAN est fragilisé. L'OTAN est fragilisé. Moi, je dirais, il faudrait plutôt dire le leadership des États-Unis à l'intérieur de l'OTAN est fragilisé. C'est ça qui est fragilisé, parce que le pilier européen de l'OTAN, il est en pleine construction, en plein dynamisme, on fait des choses. Je ne suis pas sûr que dans 5 ans, les meilleurs drones et les meilleures défenses aériennes ne seront pas plutôt du côté européen que du côté américain. Voilà, on est en train de commencer à se défendre différemment. Évidemment que quand un pays de l'OTAN agresse un autre pays de l'OTAN, ça pose un problème à l'OTAN, c'est évident, c'est évident. Mais même ça, je considère, moi, vous savez, je considère que le multilatéralisme, c'est pas des supranations. Le multilatéralisme, ce sont, je dis souvent, l'Union européenne, le multilatéralisme, ce sont des méthodes de médiation des conflits. C'est-à-dire que c'est une manière de dire, nous anticipons le fait que nous serons en conflit, mais nous gardons un endroit où nous pourrons le gérer sans nous faire la guerre. Et nous l'anticipons. Alors évidemment, c'est un basculement, puisque un des leaders de ces instances est en train, excusez-moi, de partir en vrille. Enfin, on est quand même beaucoup à se poser la question sur la logique.
De cette instance, c'est pas n'importe lequel.
C'est pas n'importe lequel.
C'est celui qui était censé protéger l'Union européenne.
Mais qu'est-ce que vous voulez que je... Voilà, oui, c'est un basculement. Et oui, je crois que dans cette discussion sur l'Union européenne me semble pas. Elle ne mène pas à la mi-temps, c'est sûr, mais le match n'est absolument pas perdu parce qu'on a réagi. Sur le basculement, il y a quand même quelque chose que...
Juste, je vous reprends, parce que vous dites on a réagi, la réaction n'est pas terminée, vous parlez de match, le match est en cours et on ne connaît pas le vainqueur encore.
Non, oui, je crois. De toute façon, moi, je ne changerai pas d'équipe. Voilà. Et je crois que c'est ce qu'on a dit. Ça ne m'étonne pas que ce soit quelqu'un du mouvement démocrate, comme Jean-Noël Barrot qui l'ait dit. Nous ne changerons pas d'équipe. Et ce n'est pas parce qu'on sera moins fort qu'on nous fera dire que la démocratie, ce n'est pas bien, ou que le multilatéralisme ne sert à rien. Voilà.
Est-ce que l'Union européenne doit chercher de nouveaux alliés aujourd'hui dans ce nouveau monde qui est en train de se dessiner? Lesquels?
Mais l'Union européenne doit faire des alliances et des accords.
Avec qui?
Mais par exemple avec l'Amérique du Sud.
Voilà.
Par exemple, mais bien sûr, c'est ça qui doit éclairer. Si vous voulez, quand on concentre la discussion sur le Mercosur, que je ne suis pas d'accord pour accepter dans l'état dans lequel il est, mais on ne peut pas discuter du Mercosur en voyant ça comme un espèce d'accord agricole. D'abord, nos agriculteurs souffrent aujourd'hui et le Mercosur n'est pas là. Donc la souffrance de nos agriculteurs ne vient pas du Mercosur, puisqu'il n'est pas là. Je ne préjuge pas de mon adhésion au Mercosur ou pas. Je dis, voilà le débat. Et c'est vous qui l'avez posé, le débat, en disant... voilà. Alors, en termes de basculement, il y a un basculement que je voudrais vraiment noter parce qu'il est fondamental, il est annoncé, et les dictateurs, faut toujours écouter ce qu'ils disent. C'est qu'aujourd'hui, alors que nous avions un hémisphère nord et un hémisphère sud, Trump a commencé à dire... Maintenant, il y a un hémisphère ouest, c'est moi, il y a un hémisphère est, c'est la Chine, et c'est ça c'est comme ça qu'on va reconstruire le monde. Et quand on pense à ce basculement, quand on regarde ce basculement comme c'est une boule, on peut, hein, voilà, ça veut dire deux choses. Un, ça veut dire que le Groenland est une frontière, une zone de friction, puisque le Groenland, évidemment, nous on a tous Mercator en tête, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le Groenland, c'est en haut à gauche. Mais pas du tout. Le Groenland, c'est exactement au milieu entre Russie, Chine et États-Unis. C'est exactement au milieu. C'est normal que ça frotte là.
Vous avez dit les dictateurs, il faut toujours les écouter. Vous qualifiez Donald Trump de dictateur?
Oui. Oui, je pense que... Alors, dictateur, on peut discuter, mais ce n'est pas un démocrate. Je suis désolé, ce n'est pas un démocrate.
Alors, un grand merci, Frédéric Petit.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes député Modem des Français établis en Allemagne, en Europe centrale et dans les Balkans. Merci à vous, chers auditeurs, et excellente suite des programmes à l'écoute de Radio Orient.
C'était Pluriel.